Et à la première question. C'est-à-dire que, de la même manière que le passage de Dvar Halakha, j'ai bien mis le commentaire. Dvar Halakha, c'est l'étude de la Halakha dans laquelle il y a machloket, c'est-à-dire opposition des points de vue dans l'enseignement. Et ici, il s'agit de l'élaboration législative. Alors que Din, c'est le Bet Din, et il s'agit de la jurisprudence. Vous comprenez la différence de ces deux concepts. Alors, de la même manière que de Dvar Halakha, on finit par arriver à la Hatsuka, de la même manière, le Bet Din aboutit à un Psak Din. Okay. Alors, si on peut sortir de la Halakha Psuka pour arriver à la Tfila, de la même manière ici aussi, on peut sortir du Psak Din pour arriver à la Tfila. Or, la Braïta se formule un peu autrement. L'omitor Din a filou Psak Din. Velomitor de la Halakha et la Halakha Psuka. Donc, il y avait un décalage. Mais j'ai en fin de compte fini par comprendre ce décalage. En réalité, je voudrais quand même. Vous avez compris le problème. Alors, il est bien évident que lorsque le Din aboutit à un Psak Din, il n'y a plus de problème. Quoi qu'il faut vérifier pour le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, mais nous reprendrons cet aspect avec l'étude du Kohel Rosh, qui est effectivement relié à cela. Seulement voilà, Dvar Halakha aboutit très rarement à Halakha Psuka. La plupart du temps, il aboutit à Halakha le Maase. Quelle est la différence? C'est-à-dire, il y a eu étude de Halakha. Et en fin de compte, on aboutit à une décision, non pas du tout arbitraire, qui va impliquer un consensus, mais qui est Halakha le Maase. Pour agir, pour faire, pour se comporter, on ferait ainsi. Mais la marloquée du Dvar Halakha reste ouverte. Est-ce que c'est clair? Tandis que Halakha Psuka, c'est le cas particulier où véritablement la marloquée a été complètement évacuée. Et vous gardez, si vous voulez, comme cas privilégié, Halakha le Moshe Missinaï. Halakha le Moshe Missinaï, puisqu'il n'y a pas eu oubli, puisqu'il n'y a pas eu Shekha, alors là, il n'y a même pas de place pour une élaboration de Torah Shebaal Peh, sinon, du point de vue d'une jurisprudence éventuelle. C'est-à-dire si un cas particulier du cas général est offert par l'histoire et qu'il faut formuler ce que dit la Halakha pour ce cas particulier, mais c'est jurisprudence beaucoup plus que élaboration législative. Bien, alors nous pouvons, s'il n'y a pas d'autres questions préalables, aborder immédiatement la première sugya cette fois, puisque ça nous permettra d'élucider ce qu'avait dit la Braïta Rabbanan Avdin Kematnitin, c'est-à-dire l'ensemble des Hachamim appliquaient l'enseignement de la Mishnah, c'est-à-dire En Omdin Leitzpalel Lamitor Kovedosh, et que Rav Ashi, lui, appliquait la Braïta. Alors, bien entendu, cette notion de Kovedosh qui va nous occuper maintenant, est beaucoup plus large que l'enseignement des Braïtot. De quoi s'agit-il avant toute chose? C'est-à-dire des conditions préalables d'attitude qui permettent, qui rendent possible de commencer à prier. En omdin leit palel ella. Ici, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse sur une question de méthode. Quand nous avons une formule de ce genre, en général dans les Mishnayot, en omdin leit palel, on ne fait ceci ou ceci, ella. Sinon, dans le cas où, ça a l'air d'être absolument exclusif. En Omdin, Ella. Que dans ce cas. En réalité, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la méthode talmudique un lavdavka. Lavdavka, ça veut dire pas seulement. Lavdavka. C'est-à-dire, ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas exclusif. Mais qu'on est occupé à étudier cette limite-là. Mais il y a aussi d'autres limites. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, le mot de Ella semble être totalement, absolument exclusif. Mais en réalité, ce n'est pas exclusif. Ou par exemple, vous avez d'autres formules dans les Mishnayot, sans prendre d'exemple trop concret, toute une catégorie d'individus est soumise à telle obligation, sauf, ce sauf, chutz, c'est aussi un lavdavka. Il peut y avoir aussi d'autres sauf, pas seulement celui-là. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on appelle la base.
Parce que de toute façon, le LA sur le plan grammatical est relié à un ensemble. Il vient après, on
est
annoncé
quelque chose. Oui, mais on pourrait croire que ce que ce LA indique serait exclusif. Que ça.
Que ça par rapport à ce qui a été énoncé avant.
Oui, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, l'expression classique, c'est Tana Veshayer. L'enseignant s'occupait de ce point, ne s'occupait pas des autres points. Mais nous pouvons avoir une autre Mishnah où un autre point aussi est envisagé. C'est pourquoi nous avons plusieurs baraïtotes. Si vous les prenez, la baraïtote, nous avons commencé avant-hier, et nous allons voir un peu la suite, très rapidement. Bête, dans la page 136. Vous avez vos textes. Le paragraphe Bête, dans la page 136, on va le voir très rapidement. Et je vais avoir la même formule. Alors je lis. Tanu Rabanan, en amdin leit palel, lomitor atzvut, on entreprend de prier, ni du dedans d'une situation de atzvut, tristesse, mélancolie, ve lomitor atzlut, ni du dedans d'une situation de paresse, ve lomitor srok, ni du dedans d'une situation de echomrim srok, en français j'ai oublié.
Plaisanterie,
très bien. Ve lomitor sicha, ni du dedans, encore une fois, d'une situation de sicha, c'est toujours sicha ptela, de bavardage. Okay? Velomitor kalutrosh, ni du dedans d'une situation de légèreté. Velomitor dvarim betelim, ni du dedans d'occupation futile. Et là, mitor simcha shel mitzvah. Mais du dedans de la joie que donne le fait d'être occupé à une mitzvah. Vous voyez, nous avons donc des enseignements parallèles. Dans le cas des Dayanim, dans le cas des Talmidei Chachamim, c'est surtout cette Braïta qui apparaît, la Braïta que nous avons étudiée, c'est-à-dire Ela Mitoch Halakha Psuka. Mais dans le cas de tout un chacun, c'est-à-dire l'homme de la communauté, lui n'est pas occupé à l'expérience Bet Din ou à l'expérience Dvar Halakha. Et alors là, c'est plein d'humour, là encore. Si vous avez compté les situations désignées, il y en a 6 qui sont interdites et une qui est permise. Nous avons là un plan très simple, schématique, les 6 jours de la semaine, à quoi on est occupé, à tout ça, à Tzvut, à Tzlut, Tzrok. Il y aurait toute une philosophie de l'existence d'après cette. Et voilà que le Shabbat, le 7e jour, là c'est Simcha Shel Midrash. On pourrait faire cette analyse. Alors vous voyez, aussi, ici aussi nous avons cette expression, elle là, si ce n'est du dedans d'une Simcha de Midrash. Et hier, il y avait eu la question. Est-ce que, ou avant-hier peut-être, est-ce que par exemple le fait de donner la tzedaka rend possible la tfila de façon au moins aussi efficace que de passer par l'étude d'une halakha psuka? C'est là que j'avais répondu oui, en général d'ailleurs, finalement c'est ce qui va être retenu, avec l'indication que la simcha d'une mitzvah par excellence, c'est la simcha de Talmud Torah. C'est clair? Et à condition, bien entendu, de préciser qu'il s'agit de Dvar Torah et non pas de Dvar Halakha, qu'il n'y a pas de contradiction. La Braïta interdit Dvar Halakha parce qu'il y a Machloket, mais Dvar Torah, c'est déjà Halak. C'est déjà clair, c'est au niveau de Halakha. Bien, alors prenons, si vous voulez, maintenant notre première Mishnah. En omdin leit falel, elam itor koved rosh. Alors voyez tout de suite l'explication que donne Rashi à ce terme, et qui nous sera un fil conducteur pour nous diriger à travers les différentes explications proposées par la Gemara. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de Kovel Rosh qui est exigée par la Mishnah? D'abord, le sens littéral, c'est le sérieux. Mais ça s'oppose à Kalut Rosh. Kalut Rosh, la légèreté, dans le sens de désinvolture, ce dont on parle, ce dont on s'occupe n'est pas sérieux, et on envisage cela, on y est occupé, mais Kalut Rosh, avec un petit peu une pointe de plus que simplement de la désinvolture, disons peut-être même de l'insolence, Kalut Rosh. Kovet Rosh, c'est exactement l'expression inverse, et on va dire d'abord littéralement, la tête lourde, le sérieux. Mais en français, légèreté de la tête a déjà les deux sens, physique et psychologique, mais en hébreu, nous avons l'équivalent. Kovet Rosh, ça veut dire la tête lourde, et ça veut dire en même temps le sérieux. Nous allons voir ça très rapidement, Et c'est pourquoi j'irai assez rapidement dans l'élaboration du raisonnement pour aller directement aux conclusions de chaque proposition. C'est-à-dire, le problème que la Gemara va poser, c'est qu'on peut être dans un état de sérieux pour des motifs profonds très différents, pour des comportements intérieurs très différents. Et au fond, la recherche de la Gemara, nous allons la suivre de la manière suivante. Quelle est la nature exacte de l'émotion de motivation du sérieux qui est réclamée ici? Parce que la Mishnah se borne à une description extérieure. Elle nous décrit le signe extérieur du sérieux, dans le terme même, Kovet Rosh. Mais encore une fois, on peut être dans une attitude de sérieux pour des motivations très différentes. Alors elles vont être envisagées très rapidement, et je pense qu'on pourrait formuler le sujet général qui se dégage de la manière suivante. Étant donné que nous sommes occupés à la situation de comportement religieux par excellence, c'est-à-dire le moment de la prière, qui est le moment où l'on décroche, où on se détourne du quotidien, rappelez-vous la deuxième braïta, les six situations des six jours de la semaine, et on se détourne de la banalité du quotidien pour prendre sa destinée en main de façon sérieuse. Mais ce sérieux, c'est en fait le sérieux du dialogue avec Dieu, si j'ose dire, mais j'aime pas ces formulations, disons du face-à-face, du devant Dieu. En réalité, nous sommes toujours devant Dieu, mais dans le sens de lui à nous. Et puis, la plupart du temps, nous sommes cachés, nous sommes de trois quarts, comment dire, nous sommes détournés. Et puis, arrive le moment où la situation de devant Dieu doit être prise au sérieux, alors il faut qu'il y ait décrochement de l'expérience habituelle et construction d'une attitude d'authenticité. Cette attitude d'authenticité s'appelle le Kovet Rosh en hébreu pour la Mishnah. Et la Gemara va demander de quelle nature est l'émotion intérieure de ce sérieux. C'est clair? Bien. Alors, première proposition, vous suivez sur la Gemara. Mine hane mile. Je ne sais pas comment on vous le formule ici. C'est ça. Mine hane mile. Et ça veut dire d'où ces mots ont été tirés. Ça veut dire d'où la Mishnah sait-elle que pour pouvoir prier, pour avoir le droit de prier, il faut être dans une attitude de sérieux. Est-ce que vous entendez la difficulté de la question? Pourquoi la question est difficile? Alors, la Mishnah nous dit une chose qui apparemment va de soi. En omdin leitzpalel, et la mitor kovet rosh. On ne commence à prier que du dedans d'une expérience de sérieux, un peu comme je l'ai décrit tout à l'heure. Alors, pourquoi la Gemara demande une preuve? Est-ce que vous entendez ce que j'essaye de formuler comme question? Mais ça va de soi. Hein?
Sérieux peut être
dû à... Non, justement, on va nous répondre que cette motivation de sérieux peut avoir une raison différente. C'est bien évident, mais formellement, de façon générale, ça va de soi qu'il faut être sérieux pour prier. En omdin leit palel el amitor kovet rosh, et la Gemara intervient pour dire mine ane mile, de quel verset tu tires cela? Bon, je vais expliquer. Mais comme on dirait, il y a plus que de l'humour là. Hein? Mais est-ce que ça va pas de soi qu'il faut être sérieux dans une synagogue? Ben non, ça va pas de soi. Il ne va jamais rentrer dans une synagogue. je veux dire que ce que la Gemara demande, c'est la référence d'un verset. Pourquoi? Parce qu'elle veut savoir ce que le Mikra, lui, ce que le texte du prophète entend par le sérieux. C'est-à-dire la motivation telle qu'elle va être définie par le Tanakh, par la Bible, si vous voulez, et non pas une motivation subjective où chacun entreprendrait de définir pour lui-même ce que serait, entre guillemets, le sentiment religieux. Parce qu'il s'agit bien évidemment d'un sérieux bien particulier. Qu'est-ce qu'on entend par Kovet Rosh lorsqu'il s'agit de la relation de respect, Kovet, vous voyez, Kavod, entre l'homme et Dieu, qui est construite dans cette entreprise de la prière. Là, il y a une note importante, c'est-à-dire ce que la Gemara recherche, c'est qu'est-ce qu'en pense le verset. Et il y a plusieurs versets cités, parce qu'il y a plusieurs situations possibles, et donc en fin de compte, la maskana nous sera donnée, la conclusion nous sera donnée, que parmi toutes les éventualités, tout ayant une base dans tel ou tel verset, on finira par retenir celle qui exprime l'intention de la Mishnah. Bien, première proposition, on va nous citer un verset qu'il écrit, la prière de Hanna. Hanna était la mère, avant d'être la mère, elle devait, celle qui sera la mère de Samuel. Et vous savez que Hanna n'avait pas d'enfant, elle était la deuxième femme de Elkana qui avait deux femmes, Penina et Hanna. Penina était comblée d'enfants, Hanna n'avait pas d'enfant. Et le premier chapitre du livre de Samuel nous décrit la situation de prière de Hanna. Elle est décrite dans le verset suivant que nous allons suivre ensemble. Amar Rabbi Lazar de Amar Kra. Voilà ce que le verset a dit. C'est le premier verset proposé par Rabbi Lazar. Vehi Marat Nafesh. Elle était Marat Nafesh. Elle était amère de sa personne. Marat Nafesh. Elle était dans l'amertume, dans l'affliction, comme on peut dire en français. Je vous cite le verset. Vehi Marat Nafesh Vatit Palel. Elle était dans l'amertume et elle pria. Objection de la Gemara. Avant l'objection de la Gemara, donc Rabbi Lazar, sensément, fait le raisonnement suivant. Eh bien, nous avons la description d'une situation de prière et où l'on voit que l'expérience de laquelle la prière a surgi, c'est une expérience d'amertume. Marat Nafesh. La Gemara objecte immédiatement. Mimai, en quoi? En quoi le verset que tu me cites est probant pour la compréhension du Kovod Rosh de la Mishnah? Mimai, din mahana sha'ani, je pourrais dire que le cas de Hanna est particulier, de havat mirir aliva tuva. Elle est, parce qu'elle était très, trop. Tuva, c'est yoter midai. Trop amer. Peut-être que le cas que tu me cites est un cas au-delà des limites. Peut-être que c'est un cas exagéré. Enfin, exagéré, peut-être un mot exagéré, mais c'est un cas de paroxysme. Peut-être que ce cas-là réclame plus, beaucoup plus, que ce que la Mishnah me réclame. Puisque je sais, d'autre part, que Hanna était très, très amer. Ça, c'est la lecture de l'objection de la Gemara, la lecture la plus simple. Donnons à approfondir très rapidement d'une autre manière de lire cette objection de la Gemara. Mimai, dilma Hanna Shahani, sans changer les mots bien sûr, peut-être que je pourrais dire que le cas de Hanna est différent. De Hava Merirat Liva Tuva, en cela qu'elle était très amère et que cependant on lui a permis de prier. Et donc ça nous inverse complètement la proposition. Donc vous avez compris la différence. Nous avons donc bien fait de lire le Braïta tout à l'heure. Peut-être que c'est un cas de Hatzbout. C'est-à-dire que peut-être que je dirais que c'est un cas particulier. Et en quoi c'est un cas particulier? Tout à fait différent, autrement. Pas que cas paroxysme et tu me réclames trop. La Mishnah n'est pas allée jusque-là dans l'intensité du Kovod Rosh. Mais tout à fait autre chose. Que normalement il est interdit de prier lorsqu'on est dans l'amertume. Mais que comme Hanna était très dans l'amertume pour des raisons particulières, alors on l'a autorisé de prier. Et si vous vous référez au contexte, vous verrez d'ailleurs que Hanna entre dans le temple de Eli, avec Aïn, pas Eli, le temple de Eli, et Eli la voit dans une affliction telle qu'il la prend pour ivre, et veut l'expulser du temple, et alors elle se plaint et elle explique que si elle est dans cet état, c'est parce qu'elle est très malheureuse. Donc la comment dire, le raisonnement serait le suivant. Normalement, de l'état de malheur, on n'a pas le droit de prier, mais quand c'est vraiment grave, quand c'est vraiment authentique, alors on autorise. Donc, ce cas que tu me cites ne peut pas fonder la loi. Est-ce que c'est clair? Bon. D'où une troisième lecture, beaucoup plus formelle cette fois. Et je relis la formule. Dilma Hanna Shahani. Peut-être que je peux dire que le cas de Hanna est un cas particulier. Parce que, comme nous venons de dire, elle était très amère, trop, mais comme authentiquement amère, alors on lui a autorisé, mais parce qu'elle avait une raison d'être amère, qui n'a rien à voir avec le fait de prier. Je m'explique. Le verset dit, « Vehi marat nafesh vatit palel ». C'est pas parce qu'elle allait prier qu'elle était amère. C'est pour la raison pour laquelle elle veut prier qu'elle est amère. Elle était amère parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et bien que amère, on l'autorisera à prier, parce que amère, pour une raison authentique, qui est qu'elle n'avait pas d'enfant. Est-ce que vous avez suivi le raisonnement? C'est-à-dire que ne me désigne pas l'amertume comme étant la définition du Kovod Rosh, parce que cette amertume avait une cause particulière. Elle n'était pas l'émotion à atteindre en vue de prier. Voilà donc pourquoi, en fin de compte, la Gemara évacue cette hypothèse.
Okay. Il y a un autre nom qui désigne la parallèle de l'amertume. Il y a un autre nom qui désigne...
Vous voulez dire un autre terme pour dire Atzvout?
Oui.
Ici, c'est Mereroute. Et je comprends pas le sens de votre question.
Il y a un autre terme au niveau du cœur brisé. Il y a un autre terme...
Ah, Lev Nishba, cœur brisé. Chivron Lev. Chivron. Chivron Lev. À quoi vous pensez? Vous pensez inverser?
Un parallèle de... un parallèle au niveau de l'amertume.
Écoutez, cette expression de cœur brisé, c'est la contrition, c'est pas l'amertume. C'est tout à fait autre chose. Et puis, mais rappelez-moi en tout cas que nous devons arriver à Rachid. À travers toute cette.
Je demandais si le fait que l'amertume soit une possibilité d'attitude préalable à la prière dans le cas de Hana ne vient pas du fait que ce pourquoi il va prier, c'est pour supprimer la cause de l'amertume.
Attends, ça c'est un petit peu élaboré.
C'est la raison pour laquelle Hana, malgré tout le droit de prier, bien que sortant d'une attitude d'amertume, c'est que l'objet de sa prière, c'est de supprimer la raison de l'amertume.
Je dirais un peu autrement. Non, je ne suis pas contre, mais je dirais un peu autrement. C'est qu'on a considéré que son amertume, bien qu'en principe blasphématoire, si on est devant Dieu, on n'est pas amer, quelle que soit la raison. Parce que ça veut dire une religion amère. Bien que l'amertume, comme telle, est blasphématoire, étant donné que la cause de son amertume est authentique, elle est sérieuse, alors on l'autorise à prier. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Elie dit, ah, si c'est comme ça, si c'est parce que tu n'as pas d'enfant, alors que Dieu exauce ta prière.
Oui. Mais est-ce qu'on l'aurait autorisé à prier pour autre chose?
Bien entendu, non. Non, non, non. C'est ça le tout va de la Gemara. Non, j'explique tout de suite. De quoi s'agit-il ici? De quoi s'agit-il comme première situation? C'est que le droit à la prière que nous avons étudié hier avant-hier vient de l'expérience du manque. Qu'est-ce qui me donne le droit de dire à Dieu, il me manque quelque chose? Une seule chose, que vraiment ça me manque. Mais dans le cas où il s'agisse d'un manque authentique. Si c'est un pseudo-manque, alors bien entendu, la prière est blasphématoire. Les rabbins ont l'habitude. Et là, c'est un manque authentique. Parce qu'une mère sans enfant, c'est un scandale. Alors, la mère sans enfant a le droit de dire « il me manque » et elle a le droit de réclamer. Et nous allons peut-être, ça a déjà été photocopié, lire une des plaintes de Hana, tout à l'heure, une des plaintes de Hana, dans cette prière. Le texte de Shmuel ne dit pas le texte de la prière de Hana, elle dit elle a prié du dedans de l'amertume. Mais la Gemara réintègre des rites possibles de la prière de Hana. Il y en a plusieurs et on voit cette interpellation non seulement autorisée mais fondée parce que le manque sur lequel elle se motive, auquel elle se réfère, est un manque authentique. Et là-bas, on a l'habitude de citer un autre passage de la Gemara pour dire de quoi il s'agit. Je vous dirai la lecture classique et la lecture chassid de ce que je vais citer. C'est « Mimma amakim keraticha Hashem » traduit en français en citant le latin. « De profundis okay ». Ça veut dire « Mimma amakim keraticha Hashem ». Des profondeurs, je t'invoque. Moi, c'est de l'abîme, je t'invoque. Ça veut dire, si je ne suis pas dans l'abîme, est-ce que j'ai le droit de dire que je suis abîmé? Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis dans l'abîme? Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, si tu es dans l'abîme, le fait que tu sois dans l'abîme, c'est ça qui te donne le droit de... Tant que tu n'es pas dans cette situation de manque réel, qu'est-ce que ça veut dire? Il me manque. Il ne te manque pas. Alors, c'est pourquoi on a pris la situation limite, qui est l'illustration de l'authenticité de cette expérience de motivation du droit à la prière. Est-ce que c'est bien clair? La lecture chassid est tout autre de ce verset des psaumes, mais finalement c'est la même, de ce verset des psaumes que j'ai cité. « Mimma amakim keraticha Hashem » des profondeurs où tu te trouves, je t'appelle. Pas où je me trouve. Vous avez compris la différence?
La différence, oui. Que dans le psaume de Mina Metzar Karatika, Vanani Vamir Chavuka, c'est pas...
C'est à peu près le même sens. Mina Metzar Karatika... Anali va me
chavir. Mais là, c'est karati.
Karati, ken. Et dans l'autre aussi, mais ma'amakim kiraticha, je t'invoque. Mais ça veut dire que tu es dans les Mahamakim, c'est pourquoi je souffre. Alors je t'appelle des Mahamakim pour être délivré de cette souffrance.
C'est beaucoup plus difficile avec le Minametsa. C'était beaucoup plus difficile.
Non, bon. Écoutez,
c'est une expression chassidique.
Non, c'est la même lecture aussi, même si c'est vrai. Minametsa Karatia. Je vais vous dire un indice. Vous avez une paracha qui est Vo el Parao. C'est-à-dire, Moïse se trouve en dehors de l'Égypte, enfin en dehors de Kerech, en dehors de la ville, et puis Dieu se révèle à lui et lui dit Bo el Parao. Il devrait lui dire Lech el Parao. Bien. Et il devrait lui dire Va chez le Pharaon. Et il dit Viens chez le Pharaon. C'est que la voix de Dieu qui parle à Moïse, elle est là-bas, prisonnière. Elle dit Viens me délivrer. Et alors, je réponds, ça y est, c'est clair. Juste, j'ai l'habitude de citer aussi une autre référence, c'est Veaya qui t'avoue à la arête. Et il arrivera quand tu viendras dans le pays. Normalement, le verset aurait dû dire Veaya qui t'élève à la arête. Mais c'est que la voix qui parle de là-bas. Kimitsion te tsetova. Alors, la voix dit Veaya qui t'avoue à la arête. Elle ne dit pas qui t'élève à la arête. C'est clair. Il n'y a pas de névoir toute la arête. Mais là, il y a ce cas particulier de la Shrina prisonnière. Alors c'est la Shrina prisonnière chez le Pharaon qui dit à Moïse, Boel Parao, j'ai besoin de toi, viens. Et sinon, la voix du désert aurait dit, va chez le Pharaon. On se dit. Alors vous reprenez juste ces versets. Mina Metzar Karatia, je t'ai invoqué de l'exil de Mitzrayim, Metzar, de l'endroit resserré, de l'angoisse. Quel Metzar, Anani Bamerchavia. Et il m'a exaucé à Rechavia. Vous savez où c'est Rechavia? C'est un quartier de Jérusalem. Ça, c'est un psaume alsacien. Alors, pourquoi alsacien? Commence pas à faire du Lashon Hara. Parce qu'ils aiment bien Rechavia. Bien, alors en tout cas, revenons à notre problème. Ce qu'il y a, c'est que la réfutation de la Gemara est donc ainsi. C'est par le fait que l'amertume de Hanna est authentique qu'on l'a autorisée à prier, et nous retrouvons la première lecture. Alors il faudrait arriver à une amertume pareille, si la motivation c'est le manque, il faudrait arriver à un manque pareil, alors on n'aurait jamais le droit de prier, sauf si on est dans cette situation de paroxysme. Est-ce que c'est clair? Vous voyez donc les trois lectures se recoupent.
Je comprends pourquoi est-ce que Rabbi Elazar amène ce passage du Mimra de Nafesh.
Plus fort.
Pourquoi est-ce que Rabbi Elazar amène ce passage du Mimra de Nafesh, oui. Pour prouver qu'il faut l'attitude de Kovet Roche. Mais c'est pas directement, c'est pas exactement la même chose.
Parce que c'est la même chose. C'est premièrement un Kovet Roche possible. Nous allons voir qu'il y a cinq situations de Kovet Roche possibles citées par la Gemara. Un Kovet Roche est celui de l'amertume. Je dis amertume parce que c'est le mot employé par le verset, Merirut Nefesh. Mais je vais essayer d'expliquer en français. C'est l'expérience du manque de l'essentiel me met dans une situation de Kovet Roche. Là, il faudrait déjà employer un style poétique pour décrire ces choses-là, mais relisez les romantiques, même français, Vigny. Vous voyez le front penché sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que nous sommes dans un monde où il manque l'essentiel. Alors, il y a Kovet Roche. Mais. Dans la mesure où ce Kovet Roche vient d'une expérience de manque à ce niveau-là, elle sera autorisée. Parce que ce qui se dégage, c'est une recherche, j'allais dire, à la manière des chassidim de cette Gemara. La Mishnah est trop mitnaged. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être triste pour être devant Dieu? C'est un blasphème. Vous voyez à peu près le problème? Alors tout de suite la Gemara dit, y a un cas particulier, on va autoriser ces Hana, parce que c'est authentique. Et toi, tu me dis que c'est ça le cas modèle? Non, c'est le cas qu'on intégrera à la règle, et non pas le cas qui fonde la règle. Voilà le problème. Alors, il n'y a pas de doute que Hana était Bekoved Roche. J'ai surtout compris ça un peu, si vous voulez, dans la tentative d'explication existentialiste du sentiment religieux qu'ont donné les psychologues contemporains. C'est-à-dire, ils veulent nous expliquer que l'expérience religieuse n'est pas autre chose que l'expérience existentielle, que la conscience de mes limites fait que je m'invente un Dieu. Vous voyez à peu près ce que j'essaie de décrire. La Gemara a réfuté ça à l'avance. Dire non, non, ça nous connaissons, c'est autre chose. C'est-à-dire, si c'est authentique, ça sera un marchepied à l'expérience religieuse. On l'intégrera. Mais l'expérience existentielle et l'expérience religieuse n'ont rien à voir. Elle a réfuté cela d'un coup. Est-ce que c'est clair? On dira, voilà ce que vous voulez dire en disant
nous avons un sauveur. Et vous voulez dire que le monde est absurde, alors vous avez besoin d'un sauveur. La gamme répond non, non, on ne va pas parler de la même chose. Que le monde est absurde, ça, c'est ce que vous dites. Maintenant, si vraiment vous le ressentez à un niveau authentique, on vous prend aussi chez nous. Mais nous parlons d'autre chose. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que... Oui, je me souviens quand j'étais étudiant, l'existentialisme était à la mode. Et il y avait des conférences dans des centres communautaires qui n'existaient pas encore. Le judaïsme est un existentialisme. Le judaïsme est un existentialisme. Non, le judaïsme, c'est le judaïsme. Et l'existentialisme, c'est l'existentialisme. Mais alors, il peut y avoir une approche existentialiste du judaïsme à une condition, qu'elle soit authentique, comme Hannah. Mais vous comprenez, quand le professeur de philosophie existentialiste enseigne à ses élèves que le monde est absurde, mais qu'à la fin du mois, il va toucher son chèque chez le caissier, il y a au moins une chose qui n'est pas absurde. Et voilà, grosso modo. Et alors, donc, si le psychologue vous propose explication existentialiste du sentiment religieux, sachez que la Gemara a réfuté Rabbi Elazar et qu'elle a intégré Rabbi Elazar sur un point, c'est que lorsque c'est vraiment authentique. Encore une fois, c'est pas parce qu'elle allait prier que Hannah était amère. Elle était amère parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et bien qu'elle soit amère, puisque c'est parce qu'elle n'avait pas d'enfant qu'elle a eu le droit de prier. Voilà. Mais là, il n'y a pas de doute qu'il y a une expérience de Kovéd Rosh authentique. Seulement, voilà ce qu'on sait à la Gemara. Tu me donnes une limite trop dure. Alors il faut que j'attende d'être dans cette situation pour avoir le droit de demander. C'est trop. Ouais, tout va en araméen, ça veut dire yoter midai. C'est trop ce que tu dis. Il n'y a pas de doute que si on réfléchit bien au fond du problème, dans le fond du problème, c'est Rabbi Elazar qui a raison. On n'aurait pas le droit de demander avant d'être dans une situation pareille. Pourquoi? Parce que le monde a une providence, il sait ce qu'il fait. Il dirige le monde. Et voilà que j'entreprends de demander un chidouche, un chinouille. Alors, je n'ai le droit que si vraiment c'est sérieux. Seulement, la Gemara va atténuer tout cela. Et alors, on va se donner rendez-vous que lorsqu'on est dans une situation de veuvage pareille. Mais voilà, c'est pas possible, c'est trop. Vous voyez donc, comment nous allons utiliser cela? Premièrement, en tant que réfutation d'une explication psychologique de l'expérience religieuse, elle est très proche de l'expérience existentielle, et dans une certaine dimension, la prise de conscience de mes limites de créature fait que je suis sûr que j'ai un créateur. Alors, le psychologue me dira... Non, mais n'ajoute pas ta deuxième phrase. Arrête-toi là. La prise de tes consciences de tes limites, un point. Tu es un être fini, mais ça ne te permet pas d'inférer. Donc, je suis créé par l'infini. Et alors, la réponse de la Gemara consiste à dire ce sont deux expériences différentes. Ce n'est que lorsque la prise de conscience des limites est authentique qu'elle est une base à l'expérience religieuse. Mais l'expérience religieuse, c'est autre chose. Bien sûr, je sais que j'ai des limites, mais c'est pas par là que je sais que j'ai un créateur. Vous avez été clair? Bon. Alors donc, nous allons être maintenant occupés à une deuxième thèse. Et vous vouliez poser une question, si c'est sur le sujet direct.
Au niveau de la méthode, ça peut en dire qu'au niveau de la méthode, la règle, c'est qu'il ne faut pas prier dedans de la tristesse. Alors tout de suite, l'exemple qu'il a donné, c'est justement
exactement.
Un exemple qui contredit la règle.
Exactement.
Donc, ce qui est à retenir, c'est que même si c'est dedans de la tristesse, ce qui est dit, c'est la demande. Et il faut être attentif au moment où elle apparaît, même si ça contredit apparemment la règle.
Si la cause est authentique, c'est intégré dans la règle.
Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Enfin, ça soit...
Très bien. C'est juste. Alors, deuxième proposition. Et là, mais, Amar Rabbi Yossé de Rabbi Hanina, mais Hacha, Rabbi Yossé, fils de Rabbi Hanina, va proposer un autre verset. Un verset du psaume de David, qui est le psaume 5. Vous avez la référence d'ailleurs, dans le commentaire de Steinzal, c'est 5 combien? Donc vous chercherez dans le psaume, ça vous donnera l'occasion de lire le psaume 5. Mais Hacha, Vani, Berob, Chazdecha, et moi, Berof Hasdecha, dans ta grande bonté, dans ta grande charité, Berof Hasdecha, profitant de ta grâce, Chesed, Avo Vetecha, je viens dans ta maison, Eshtachave, je me prosterne, Elechal Kotchecha, au sanctuaire de ta sainteté, Beiratecha, dans la crainte de toi. Là, la deuxième proposition, c'est une autre situation de prière que décrit David lui-même. Et où l'émotion recherchée n'est plus Meridut Nefesh, et tout à fait autre chose, c'est Ira. Dans la crainte de toi.
Et dans ce thème de Ira, nous avons différents niveaux, mais il n'y a pas de doute que le niveau fondamental, c'est bien le mot français, la peur, la crainte, la peur. Alors, la Gemara va objecter exactement la même objection. Mimai, en quoi ce verset est probant de ce que nous cherchons dans la compréhension de la Mishnah? Dilma David Shani. Je peux dire que David est un cas particulier, David de ce verset est un cas particulier. Dehava metzaer nafshe berahame tuva. Parce que il s'affligeait dans tzahar nefesh. Il s'affligeait dans sa prière, rahame, rahamim, en araméen, ça veut dire la prière, parce que c'est le bakesh rahamim, demander générosité. Et tuva, trop, yotermidai, comme nous avons vu tout à l'heure, de trop grandement. Alors, je vais vous décrire très rapidement de quoi il s'agit, ici, par rapport à ce verset. Le raisonnement est exactement le même. C'est-à-dire, je peux dire que David avait une raison particulière, personnelle, d'être dans la crainte, et que la raison pour laquelle il était dans la crainte, c'était pas qu'il allait prier. Et là aussi, on va l'autoriser à prier, bien qu'il soit dans la crainte. C'est clair ? Et quelle était cette raison ? Ben, c'est connu, il avait fait une faute. Alors, il vient prier, mais étant dans la crainte que le jugement qui sous-tend la prière soit dangereux pour lui. Et alors, la Gemara refuse, en disant, encore une fois, c'est pas parce qu'il va prier qu'il est dans la crainte, puisqu'il dit « Berof Hasdecha ». Il commence par dire « Je suis à l'abri de ta grâce, et je viens prier « Beiratecha » dans la crainte de toi ». C'est donc qu'il avait une raison particulière d'être dans la crainte, c'était la faute de Bathsheba, et par rapport à Bathsheba. Il avait une raison particulière d'être dans la crainte, et bien qu'il était dans la crainte, parce qu'il était authentiquement dans la crainte, alors on l'a autorisé. On l'autorisera à prier, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, dira la Gemara. C'est aussi un cas limite, un cas de paroxysme. Et là, effectivement, nous trouvons aussi dans la littérature contemporaine une thèse qui s'appuie sur ce même principe pour essayer de dissoudre la spécificité du sentiment religieux, de l'expérience religieuse. C'est la thèse qui se base sur la culpabilité. C'est-à-dire que, quelle est la conscience religieuse, d'après cette thèse? C'est la conscience qui se connaît comme coupable. Et c'est cela qui la met devant Dieu. Alors la Gemara réfute en disant, non, cette expérience, nous la connaissons, elle est tout à fait autre. C'est l'expérience de la culpabilité, mais ce n'est que lorsqu'elle est vraiment authentique. Parce que avant d'être le juge de la culpabilité, Dieu est le créateur du monde. Est-ce que c'est bien clair? Et je pense que là, cette thèse serait très, non plus tellement particulièrement existentialiste, mais d'une façon générale, d'imprégnation chrétienne. C'est-à-dire que le commencement de l'expérience religieuse est la conscience du péché originel. Le fait qu'on puisse accrocher cela à un verset du roi David n'est pas d'ailleurs inutile. C'est pas le mot inutile, n'est pas indifférent. D'accord ? Mais ça consisterait à dire, je prends conscience de moi comme en faute, et c'est cela qui me mène à la religion. La religion est essentiellement une conduite de rédemption. Alors, c'est refusé par la Gemara. Puis nous savons ce que c'est que ça. Ça, c'est pas la religion. Maintenant, dans le cas où c'est vraiment authentique, alors on intégrera. Mais on n'a pas encore trouvé la règle. Est-ce que c'est clair? Bon, ça va le dire. Donc, premièrement, il est le manque. Deuxièmement, la culpabilité.